brouillon de lecture. Brouillon de lecture, émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour. Et ce, tranquillement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Alors, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et quel livre avez-vous choisi ?
Alors là, c'est Hervé qui a choisi un roman intitulé « Vie sauvage » de Daniel Faure.
Daniel Faure, en personne.
Pas, oui. Non mais ne te moque pas, Dominique. Donc, c'est vrai que Daniel Faure n'est pas très connu du grand public.
Effectivement. Si je suis le grand public, il n'est pas très connu du grand public.
Arrête de l'agacer. Hein.
Tout au moins en tant que romancier. Mais Dominique, si je te dis la phrase « think different », est-ce que ça t'évoque quelque... Oui, je sais mon nom.
Là, je pense qu'on a perdu la moitié des auditeurs.
You mean « think different »
Voilà, est-ce que ça te dit quelque chose ?
Eh bien, c'est un slogan publicitaire avec un sauteur en hauteur.
Fosbury. Exactement. Bravo Dominique.
Eh bien, j'ai une culture publicitaire.
Ouais. Attention, pas de marque. Hein.
Alors, ah oui, alors, au départ, c'était un slogan pour... Et finalement, ça a été racheté par une autre marque. Voilà.
Et bien là, on a perdu l'autre moitié qui restait encore.
On n'a pas fait de pub, c'est parfait.
Donc Daniel Faure, j'en viens à lui, travailler avant dans le domaine publicitaire et puis il est devenu romancier. Et ça n'est pas un débutant car il a déjà publié 7 romans et plusieurs nouvelles et même une pièce de théâtre.
Alors, il faut préciser que « Vie sauvage », que nous allons lire aujourd'hui, est son dernier roman et a été publié en 2024 aux éditions Inculte.
Et donc, pourquoi est-ce que tu as choisi... Monsieur Faure.
Oui, je m'attendais Daniel à ce que tu Faure. Me poses la question. Alors, j'ai bien réfléchi. Et en fait, je crois que j'ai choisi ce livre pour son humour et sa dérision. Sans trop dire sur le bouquin, il raconte la vie à l'intérieur d'un zoo. Alors bon, c'est presque un petit peu banal comme ça. Oui, mais il a l'art de mélanger les animaux et les humains à l'intérieur de ce zoo, tout en les plaçant sur un pied d'égalité. Alors, non pas égalité de liberté, hein, ça c'est ça, évident, mais égalité de pensée et presque de langage, comme vous allez pouvoir le voir. Donc chacun, les humains et les animaux, vit sa vie avec ses contraintes inhérentes à sa condition, et il n'y a finalement pas tant de différence que cela. Et donc, je vous propose tout de suite de lire un premier extrait. Roméo et Juliette, quant à eux, n'étaient là que depuis 13 ans à peine et vivaient dans leur marigot sans rien demander à personne et réciproquement. 15 ans plus tôt, ils se trouvaient perchés dans la nuit sur un acacia africain et ils avaient nidifié et dont les épines géantes suffisaient à décourager les prédateurs les moins exigeants ou les moins affamés, car la chair du marabout n'est pas le mets le plus prisé de la savane. Le marabout est grégaire comme le loup, l'abeille, le cheval ou l'humain. Mais la saison des amours avait poussé ces deux-là à choisir un arbre à l'écart, comme d'autres préfèrent garer leur voiture sur un chemin forestier. Une cinquantaine de gazelles les avaient rejoints sous un ciel sans lune et s'étaient regroupées sous l'acacia pour y passer la nuit, elles aussi. Le ciel, percé d'un milliard d'étoiles, tournait lentement au-dessus de la terre quand des points lumineux comme des lucioles avaient surgi dans la noirceur de la savane. Soudain, des phares avaient découpé la nuit et les voitures avaient bondi telles des fauves soulevant des nuages de poussière autour de l'acacia. Des hommes, accrochés sur les marchepieds ou cramponnés à l'arrière des pick-up, s'étaient mis à tirer dans la lumière des phares et des projecteurs fixés sur le toit des cabines. Les gazelles couraient et bondissaient dans les raies de poussière jaune et retombaient lourdement comme des sacs de sable sur la terre invisible. Les balles déchiraient l'air et le raclement des boîtes de vitesse se mêlait au martèlement des sabots et à ces espèces d'éternuements qui sont la façon de crier si particulière des gazelles. Le choc des corps tamponné par les véhicules et le bruit des tirs avaient envahi la nuit et après une heure de furie, de déchaînement de moteurs, de détonations et de collisions, les phares s'étaient éloignés dans la nuit emportant les dépouilles de gazelles entassées à l'arrière des pick-up, leurs jolies têtes aux yeux morts ballottées par les accidents du terrain. Et la poussière était retombée sur la terre, poudrant les flaques de sang comme du sucre glace. Pendant toute la durée de la séquence, les deux marabouts étaient restés sur l'arbre. Et c'était quelque chose d'inexplicable. N'importe quel oiseau se serait envolé, aurait fui à tire-d'aile, même en pleine nuit, confronté à un tel chaos. Mais pas eux. Quelque chose les avait cloués sur place et ils avaient assisté au carnage du début à la fin, figés sur leurs branches. Il n'y avait aucune explication à ça qu'un humain puisse avancer et la trace qu'avait laissé l'événement dans leur cerveau était insondable. Au matin, les rangers avaient découvert les deux échassiers au pied de l'acacia, immobile, les pattes dans le sang séché des gazelles. Ils n'avaient pas essayé de fuir, ni de voir s'il restait quelques carcasses oubliées dont ils auraient pu profiter. Ils étaient là et regardaient autour d'eux comme pour s'assurer qu'ils n'avaient pas rêvé, sans manifester aucune crainte devant les humains. Les gardes-chasse les avaient recueillis et le couple s'était acquitté de sa dette en débarrassant le campement de ses déchets, fruits avariés, épluchures pourris, restes faisandés, charognes de n'importe quoi, insectes, lézards, rongeurs. La tenue du camp s'en trouva grandement améliorée et les deux marabouts s'installèrent dans une nouvelle vie de collaboration domestique. Une relation win-win où ils s'acquittaient du prix de leur tranquillité par leur talent de nettoyeur. Ils arpentaient l'espace tel de ténébreux compas, les yeux fixés au sol, et personne, depuis qu'ils avaient été adoptés, ne les avait jamais vus s'envoler, si bien qu'ils ne s'étaient trouvé personne non plus pour penser à leur rogner les ailes, qu'ils écartaient de temps en temps pour s'éventer ou se toiletter. Mais plus jamais ils n'avaient quitté le sol. Ils vécurent ainsi une année, tel un couple de serviteurs discrets, avant que le campement des rangers soit démantelé à la suite d'une réaffectation budgétaire et les deux marabouts transférés aux zoos d'Abidjan, où un soigneur les baptisa, après avoir vu Roméo et Juliette au cinéma avec Leonardo DiCaprio. Un an plus tard, la sécheresse qui s'abattit sur le pays priva ces derniers d'un tiers de sa production de céréales. Décimal bétail provoqua une flambée des prix vertigineuse et la mort de 55 animaux et de 22 espèces différentes dans l'établissement. La pénurie alimentaire poussa ensuite la population à venir se nourrir aux zoos avec les animaux restants. Les autruches, les zèbres, les kangourous et les crocodiles furent les premières victimes de l'opération et seule la mauvaise réputation de la viande de marabout sauva la vie de Roméo et Juliette. Le zoo ferma et les quelques espèces restantes non comestibles furent dispersées et offertes à des structures étrangères susceptibles de pouvoir les accueillir. Le parc accepta le présent du couple de marabouts, car avant d'être un animal esthétiquement peu engageant, le marabout est un symbole de sagesse, et la sagesse, en l'occurrence, commandait d'accepter le don. Le continent africain était pourvoyeur de girafes, d'hippos, de rhinos, de lions, d'éléphants, de gorilles, de guépards, avant le produit autant de produits hautement attractifs et à forte rentabilité. Même si les marabouts n'en font pas partie, il n'y avait rien à gagner à froisser une institution du continent. Les deux échassiers s'étaient donc adaptés au parc et vivaient depuis dans une volonté commune de ne pas se faire remarquer, tel un vieux couple de retraités qui craindrait la faute de goût en s'embrassant dans la rue. On sait les perroquets capables d'utiliser un langage humain et un vocabulaire d'environ 1000 mots. Ce qui suffit amplement pour vivre en société et travailler dans la plupart des entreprises ou institutions internationales. On sait aussi qu'ils parviennent à dissocier la forme d'un objet et de sa couleur et de sa matière, mais de quelles aptitudes disposent les marabouts ? Personne n'en sait rien. Même pendant la parade amoureuse, qui, chez toutes les espèces, revêt un caractère spectaculaire, les marabouts se contentent de claquer du bec sans bouger. C'est maigre. Peut-être les femelles admirent-elles cette retenue. Les marabouts ne font pas non plus l'effort de séduire les ornithologues pour être étudiés, si bien qu'il est difficile dans ces conditions de savoir ce dont est capable un marabout ou simplement d'avoir une idée de son humeur. Avec sa tête de vieux notaire congestionné, Roméo explorait les herbes de son long bec dépigmenté comme s'il avait perdu ses lentilles et son gloître rose pendouillait d'avant en arrière au rythme de ses pattes qu'il dépliait comme des essuie-glaces à chaque pas. Perché sur une souche, sentinelle d'un monde où rien n'arrivait, Juliette surveillait ses précautionneuses évolutions. « Ah, j'ai un grand vieux qui ressemble à ça !» dit le brun. « Il mange du fromage avec des vers. Une fois par an, on fait la visite. Quand j'étais gamin, il sortait ses dents de sa bouche et je me foutais à chialer aussi sec. L'enculé, ça ratait jamais. On aurait dit un putain de truc de zombie avec son dentier pourri. » « Oh, la gerbe !» dit le blond. Ils quittèrent les marabouts et continuèrent sur l'allée.
J'essaye deux, trois pauses. Je joue des hanches, j'ose une timide Marilyn. Je relève mes cheveux et frôle ta peau avec mes yeux. J'ai le feu de Springsteen. À l'évidence, on ne se connaît pas. Ces nuits de chance ou d'une seule fois. À l'évidence, on se plaît sans savoir qui on est. Sans savoir qui on est. Je sais pas que tu es beau quand tu prépares tes mots, tendre maladresse. Je tente de t'approcher tant la musique est forte pour parler. Tous mes mots sont des gestes. À l'évidence, on ne se connaît pas. Ces nuits de chance ou d'une seule fois. À l'évidence, on se plaît sans savoir qui on est. Sans savoir qui on est. On se bâtit une île sur un coin de bar. Battement de cils, top départ. Qui peut me dire ce soir comment se finit l'histoire? À l'évidence, on ne se connaît pas, c'est né de chance ou d'une seule fois. À l'évidence, on se plaît sans savoir qui on est. À l'évidence, à l'évidence, à l'évidence, à l'évidence, on ne se connaît pas, c'est né de chance ou d'une seule fois.
Je précise tout de suite, avant que Dominique ne parle, parce qu'en général, c'est Dominique qui reprend toujours après les musiques. Là, je précise donc que le blond et le brun sont deux ados en visite au zoo et que leur langage restera tout au long du roman aussi peu évolué qu'il ne l'est pour l'instant. Ce qui tend à démontrer que la fonction langage n'est pas forcément un atout chez les humains. Quand même.
C'est effectivement la question que j'allais poser. Qui c'est ce blond, qui c'est ce brun? Et donc, ton zoo, là, il est situé où?
Alors, en fait, on n'en sait rien. Et d'ailleurs, quelle importance.
Hein. Exactement. Alors, un pays quelconque en Occident.
Voilà, quelque part en Occident. Alors, à ce propos, même si c'est dit de façon humoristique, on comprend bien que l'auteur veut nous montrer le rôle de préservation de certaines espèces que jouent justement les zoos occidentaux.
Oui, parce que la première scène, la scène de chasse que l'on voit est un peu, que l'on est un peu glaçante.
Ah, on peut le dire, franchement. Ouais. Oui, oui, oui. Même si c'est décrit avec de l'humour, quand même. Et la suite du bouquin sera beaucoup plus légère. Hein. Mais la première scène, là, est vraiment glaçante.
On continue ?
Eh ben...
Alors, oui, la suite.
Deuxième extrait.
Allez, la suite.
Allez, c'est parti.
La dernière fois que Bruce, le puma, avait entendu la musaraigne, elle était là, sous la souche. Pas de raison qu'elle n'y soit plus. Il s'éloigna de quelques mètres, puis se retourna, s'assit et attendit. Ses yeux désassortis fixés sur l'enchevêtrement de racines, il avait tout son temps. L'affût est une technique de chasse universelle qui permet d'économiser son énergie pour une action brève et explosive, contrairement à la méthode dite active qui impose de bouger tout le temps comme l'hirondelle ou le requin. La crevasse que la musaraigne avait remarquée dans la paroi de ciment constituerait un abri plus sûr maintenant qu'elle était repérée. Mais l'atteindre ne serait pas si simple. Le chemin était encombré de feuilles, d'écorces et de branchettes cassées. D'ordinaire, les musaraignes créent un réseau de galeries autour de leur refuge afin d'y circuler plus vite et à couvert. Mais il n'y avait pas suffisamment de débris de végétaux dans sa cage pour créer des couloirs. Elle serait sans protection pendant presque tout le trajet. Un amoncellement de rondins, quelques mètres plus loin, constituerait une première étape avant de pouvoir obliquer vers son nouveau refuge. C'était une manœuvre risquée, mais sa décision était prise. Le guichetier termina son yaourt, jeta la cuillère dans le sac, écrasa l'emballage dans sa main. Le bruissement du plastique froissé parvint au puma derrière sa vitre et suffit à le distraire de son attente. Bruce se tourna vers le guichetier comme surpris de se découvrir observé. C'est l'instant que choisit la musaraigne pour émerger de sous la souche. Elle sortit la tête de son abri et activa ses instruments de détection comme un chalutier russe en mission. Le retour des ultrasons qu'elle émettait dessinait dans son cerveau le paysage environnant et ses changements en temps réel. Elle tortilla sa mini-trompe piquée de vibrisse et tria les odeurs dans l'espace, tandis que ses oreilles pivotantes balayaient le secteur comme un radiotélescope. Puis elle fonça, tête baissée devant elle. Elle atteignit l'entassement de rondins sans difficulté, marqua un temps d'arrêt et se lança dans la deuxième partie de son parcours en direction de la brèche. Bruce se désintéressa de l'homme sur son banc, reporta son attention sur la souche et découvrit la musaraigne qui courait sur le sol. Une ondulation parcourut sa robe de sable, dessinant sur son passage l'assemblage de ses muscles. Sans que sa tête ne modifie sa position, son corps se replaça dans l'axe du regard et sa longue queue serpenta dans l'air chaud. Ses interminables pattes postérieures s'armèrent sous lui. Et Bruce l'Argentin s'élança dans les airs, ses muscles compressés brusquement libérés, son corps fauve déployé dans l'espace tel un cliché olympique de Neil Leifer. La musaraigne filait déjà vers le ciment ébréché et tout allait bien. Quand ses vibrisses décelèrent une perturbation des masses d'air environnantes, elle identifia instantanément l'odeur du félin qui se déplaçait dans l'espace. Ce n'était pas une prouesse, elle pouvait sentir un ver à 15 cm sous terre. Les rats, ses cousins, détectaient la tuberculose et le cancer chez les humains. Elle était repérée. Sa fréquence cardiaque s'emballa. Elle n'était plus qu'à 2 mètres quand elle vit l'ombre du félin la recouvrir et s'étendre autour d'elle. Elle essaya d'accélérer, mais elle était à son maximum et seule une caméra spécialisée capable de filmer au ralenti les balles de fusil qui traversent les pommes et les gouttes de lait qui font des couronnes aurait pu enregistrer à cet instant les 2000 battements par minute de sa fréquence cardiaque. La fissure était là, droit devant. Les 97 kilos de Bruce s'abattirent sur le seuil de la brèche, amortis par l'architecture flottante de ses muscles. Ramassé sur lui-même, le puma resta un instant sans bouger, la tête penchée, les yeux fixés sur ses larges pattes de dessin animé à quatre doigts, posées l'une sur l'autre. Aucun signe de vie ne lui parvenait de sous les coussinets. Il rétracta alors ses griffes, retira une patte, puis l'autre. Rien. Il n'y avait rien sur le sol de ciment. Bruce marqua un temps d'arrêt, regarda autour de lui, puis derrière lui, souleva ses pattes à nouveau et se leva finalement pour regarder sous lui. Rien non plus. Les mammifères et les oiseaux sont tous capables d'étonnement, dès lors qu'ils ne rencontrent pas ce que leur instinct ou la logique les prépare à trouver. Bruce n'en revenait tout simplement pas. Il demeura en arrêt, comme désorienté, puis se rappela que le guichetier l'observait toujours derrière la vitre. Il grimpa alors d'un pas lent sur l'épicéa oblique, longea la corniche de béton, gravit les faux éboulis de pierre et regagna sa terrasse où il s'assit et entreprit de faire sa toilette à coups de grandes langues roses, comme on prend une douche pour oublier les contrariétés d'une journée difficile.
Attention, les aventures de la musaraigne ne sont pas finies.
Le bon, la brute et la musaraigne. Dressée devant la musaraigne, la vipère heurtante se mit à siffler et entama la danse rituelle de son espèce avant l'attaque. De brusques mouvements de tête latéraux, comme un kata pour impressionner l'adversaire. Mais la musaraigne était déjà suffisamment impressionnée et ne doutait ni de ses intentions, ni de sa dangerosité. L'instinct, dont la fonction est de garantir la survie de l'espèce, peut se révéler dans certaines circonstances une impasse contre-productive. Et comme dans les films où le monologue triomphant du méchant permet au héros de s'en tirer, ces quelques secondes de chorégraphie intimidante que la génétique imposait au serpent changèrent le cours d'une rencontre à l'issue certaine. Alors que la vipère heurtante effectuait sa danse de mort et s'apprêtait à fondre sur la musaraigne tétanisée, une masse fauve traversa l'espace et la puissante patte du puma s'abattit comme un ciel gaulois sur la tête de la vipère et l'écrasa d'un coup. De l'autre patte, Bruce bloqua la queue du serpent dont le corps, inconscient de l'anéantissement du cerveau qui le gouvernait, se débattait encore dans tous les sens et d'un coup de mâchoire, le déchiqueta en son milieu. La musaraigne, a priori imperméable au concept de dieu ou de destin, ce qui préserve l'espèce de nombre de calamités, comprit dans la seconde qu'une chance unique s'offrait à elle d'échapper à une mort annoncée dont personne n'aurait fait la chronique, et elle détala alors que Bruce était encore occupé avec le serpent. Quand plus aucune partie du serpent ne bougea, Bruce releva la tête. La musaraigne avait disparu. Elle avait regagné la gouttière et s'était glissée dans le tube de zinc comme sur un toboggan d'évacuation. Une fois dans l'allée, des effluves de suint et de bouse lui parvinrent où se mélangeait l'odeur d'une barbotine composée de luzerne, d'oignons, de bananes, de carottes, de pommes, de farine d'orge et de flocons d'avoine bouillis que le cuisinier mixait spécialement pour les girafes. Il y aurait des résidus de nourriture, ça et là, autour des bassines, et la présence de gros mammifères végétariens laissait espérer celle de chenilles et de limaces, d'escargots et d'insectes délicieux pour son régime carnivore. L'enclos des girafes se trouvait à 200 mètres. Elle trottina le long d'un talus qui progressait vers les odeurs, évita de couper par la volière dont les champs anticipaient la fin du jour, et quand elle parvint devant l'enclos des girafes, sut qu'elle avait fait le bon choix. La journée avait été chargée, mais le bilan s'avérait positif. Elle dormirait dans de la paille, jouirait de bien plus d'espace qu'elle n'en avait jamais rêvé, profiterait de la compagnie d'hôtes pacifiques, avec toujours quelque chose à grignoter à proximité. Un espace immense s'ouvrait devant elle, avec deux vrais arbres plantés, sans aucun prédateur rampant, volant ou marchant. Comme n'importe quel lion, il lui faudrait juste faire attention aux sabots des girafes.
Over mystery, no key to crack the mystery. When I woke up, you were gone. I lay my head back down, the ghost ranch glowing in my inner eye. What do I do about my destiny now? Faced with the bowed-headed beauty, only I receive it how? Clearly the lost transmission went burning from your radio to mine. I keep one ear on the line. Stretched out beneath the dome and dreaming, soul dissolves in geometric blue. Goodbye, goodbye to everyone that's leaving. I understand it, but I cannot explain. What do I do about my destiny now? With the bowed-headed beauty, only I receive it how? Clearly the lost transmission went burning from your radio to mine. I keep one ear on the stretched out beneath the dome and dreaming. Now I'm stretched out beneath the dome and dreaming. Now I am stretched out beneath the dome and dreaming. I understand it, but I cannot explain. What do I do about my destiny now? With the bowed-headed beauty, only I receive it how? Clearly the lost transmission went burning from your radio to mine. I keep one ear on the line.
Ben c'est étonnant ces extraits là où on se trouve dans la tête de l'animal. Hein, ça nous fait penser qu'ils peuvent avoir une intelligence concrète qui les amène à prendre la vie comme elle vient, de vivre en quelque sorte heureux.
Alors, il faut se méfier de tout anthropomorphisme. Ce que ne fait pas d'ailleurs Daniel Fort, il les personnifie en leur donnant un nom, sauf la musaraigne, mais elle n'est pas une habitante officielle du zoo.
Non, elle n'est pas une habitante officielle du zoo, exactement.
Il leur donne également des intentions, mais il évite l'erreur de tomber dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de leur prêter des sentiments humains. Moi, c'est quand même pas mal de sa part.
Oui. Alors finalement, la musaraigne, c'est un petit peu l'héroïne de l'histoire, ou au moins de ce chapitre.
Non, oui et non, on va dire. Oui, parce qu'elle apparaît dans plusieurs scènes. Là, Catherine en a lu deux, effectivement. Et non, parce qu'elle n'est pas la seule. Évidemment, dans un zoo, il y a beaucoup d'animaux. Donc, il y a Darwin, le gorille. Il y a Bruce, le puma. Jad Balja, le roi des animaux, c'est-à-dire le lion et son harem. Et puis, Roméo et Juliette, les deux marabouts déjà vus précédemment. Et puis, d'autres encore.
Je trouve que c'est amusant d'appeler le gorille Darwin. Un petit clin d'œil, mais bon.
Et tout ça, et donc, tous ces animaux, et ben ça donne pas mal de scènes d'action, toutes racontées, enfin, j'espère que vous l'avez ressenti, avec ce même humour jubilatoire, on va dire.
En fait, mine de rien, on apprend beaucoup de choses sur les animaux. J'en savais pas tant sur les musaraignes. Hein. Ce roman est à la fois distrayant et instructif.
Et donc, les êtres humains, là-dedans, quelle place prennent-ils ?
Eh bien, je vous propose de le découvrir dans la scène suivante. Jad Balja n'avait pas bougé depuis le début de la matinée et se trouvait encore loin d'avoir épuisé ses 18 heures de sommeil journalier. Son pelage jaune se confondait avec l'herbe jaune et la masse noire de sa crinière se détachait dans l'espace surexposé, comme une tache d'encre sur du papier recyclé. Il observait entre ses paupières presque closes les silhouettes des deux garçons aux contours mangés par la lumière, derrière l'écran vitré. Roi des animaux, roi des feignasses, ouais, dit Lebrun, et il passa plusieurs fois la main dans ses cheveux pour en éventer les boucles noires et brillantes. Tu sais pourquoi ils ont des grosses couilles ? Demanda le blond. Les lions ? Oui, les lions, pourquoi ils ont des grosses couilles ? Ah, balance ! Ben, ils font des réserves. Au printemps, ils se tapent une lionne toutes les demi-heures. Ça peut durer 3 jours. Alors, calcule ! Oh, c'est malsain. Ça le met KO pour l'année, dit le blond en regardant la masse immobile du félin couché dans sa savane miniature. Il n'aurait pas dû prendre le yaourt. L'allaitage ne lui réussissait pas. Il parvint en haut de la côte qui ne méritait que le nom de faux plat, mais avait suffi à l'essouffler et dut faire ombre de sa main pour voir les aiguilles de sa montre. Sur l'esplanade, le blond et le brun, face à la vitre panoramique, lui tournaient le dos. Il toucha ses cheveux et les trouva brûlants. Il sortit la serviette en papier plié au fond de sa poche et s'essuya le visage. Un chiffre lui revint, 10 millions. 10 millions de quoi ? De bonnes visites, qui pouvaient en dire autant ? Combien d'heures assis déjà ? 500 000 ? 50 000 ? Non, voilà qu'il s'embrouillait. Combien lui en restait-il ? Combien de jours ? 328, ça, oui, il se rappelait. Moins d'un an. Et ensuite ? Ensuite, dehors. Déjà, il aurait dû se couvrir la tête et boire aussi, boire plus, comme les vieux. Il toussa et des garçons se retournèrent. « Toujours rien, dit le blond en regardant son téléphone. « Demande, dit le brun. « Qu'est-ce qu'il en sait ? Ben, c'est le type de la caisse. Ben, ils ont des brouilleurs, je te dis. « Des brouilleurs ? Ha, t'es pas à l'ONU. « À cause des ondes, les animaux, ça les rend dingues. « Mon beau-père, il dit que depuis qu'il y a des ondes avec les téléphones et les satellites, que tout ça, ça déconne. « Ça modifie le cerveau des gens. « Ha, ça a dû modifier le sien aussi, à mon avis. » « Eh, monsieur, il y a un code ou quoi ?» lança le blond en mettant ses mains en porte-voix. « Comment ?» dit le guichetier. « Le réseau !» dit le blond en agitant son téléphone. « C'est le béton !» articula le guichetier encore essoufflé en rangeant la serviette en papier dans sa poche. « À cause des tiges de fer, essayez vers les girafes, des fois, ça passe. » « 3 % !» dit le brun en regardant à son tour son téléphone. « On dégage ?» Et ils s'éloignèrent après un dernier regard dépité au lion dans la fosse. Djad Balja fouettait l'air de sa queue, ce qu'il aurait fait dans sa savane pour chasser les moustiques qui pullulaient, mais qui, dans un parc sans mouches, ne servaient qu'à lui aérer les parties. Le guichetier sortit à nouveau la boulette de papier de sa poche, mais la serviette lui échappa et tomba au sol. Quel imbécile ! Il se baissa et dut s'y reprendre à 2 fois avant de la ramasser du bout de ses doigts. Il n'avait jamais été très souple et la sédentarité de son métier n'avait rien arrangé. Il se redressa en poussant avec les mains sur ses genoux, mais à mi-course, une lance lui traversa les côtes et l'arrêta net dans son mouvement. La douleur disparut presque aussitôt, comme si elle s'était contentée de le traverser et il n'eut pas le temps de crier. Il resta bouche ouverte, attendant que le souffle lui revienne. Puis, il acheva de se relever et aperçut, blanchi par la lumière au-delà de l'esplanade, le dos des garçons qui s'éloignaient dans l'allée. « C'est exactement ça, pensa-t-il, un monde qui s'éloigne. Il ne comprenait pas les jeunes. Ils appartenaient à une autre espèce. Ses contemporains s'écartaient de lui à la vitesse d'une expansion galactique. » Comment faisaient-ils les autres pour suivre et s'adapter à ce monde qui chaque jour inventait de nouvelles façons de faire, de parler, de penser ? Chaque nouvelle journée le confrontait à un nouvel outil dont le fonctionnement lui échappait, un mot dont le sens lui échappait, une référence qu'il ignorait. Depuis qu'il travaillait dans le parc, il avait dû composer avec un nombre invraisemblable de moyens de paiement différents. Nouveaux terminaux, nouveaux protocoles, nouveaux écrans, nouveaux logiciels. La ville aussi changeait. Les rues changeaient, les gens, les comportements, comme si tout se désagrégeait, disparaissait, tout ce à quoi il était habitué et qui était resté si longtemps inchangé. Ce monde n'était plus pour lui, et peut-être qu'il n'était plus pour personne, se dit-il. Lui-même sentait qu'il s'effritait. Un processus d'érosion, de peau morte, de cheveux, de muscles, de connexions neuronales et de souvenirs qui le quittaient et l'amenuisaient comme un château de sable que l'eau rapetisse jusqu'à effacer. Il posa sa main contre la paroi dans laquelle s'enchâssait l'épaisse vitre qui ouvrait sur le biozone du lion et s'essuya le front avec ce qui restait de la serviette en papier. Puis il lissa ses sourcils pour chasser les peluches de cellulose qui s'y étaient réfugiées. La tête lui tournait un peu et la sueur lui piquait les yeux. Une bouffée d'angoisse pénétra son esprit et une série de pensées qui n'étaient pas nouvelles l'assaillirent en essaim. Depuis quand ne s'était-il pas fait contrôler ? Que se passerait-il s'il devait aller à l'hôpital ? Ce serait la première marche d'un escalier qui descendait et en comptait peu. Chacune d'elles constituerait une étape dégradante qu'il lui faudrait accepter, car à son âge, rien ne s'arrangeait jamais. Il avait le sentiment d'avancer dans un couloir dont les portes se refermaient à mesure qu'il progressait. Sur l'une de ces portes était écrit « Tu ne peux plus soulever ce poids ». Sur une autre, tu n'as plus l'énergie d'entreprendre cette tâche. Et sur une autre, tu n'es plus capable de monter ces marches deux par deux. Une liste de petits deuils et d'abandons qui s'allongerait jusqu'à ce que plus rien ne soit possible, pas même respirer. Une arborescence inversée dont les choix se réduisaient à chaque ramification. Comment vivrait-il ? Et dans quel état ? Il n'avait pas les moyens d'avoir quelques jours quelqu'un pour l'aider. Il regarda Jad Balja, impassible, comme un jouet posé sur l'herbe avec sa queue mécanique. Combien de temps ? Combien de temps avant qu'on referme sur lui la porte d'une chambre qui sentirait le désinfectant et sur laquelle était écrit à l'encre invisible « Toi qui entres ici, abandonne toute espérance ». Combien de temps à supporter l'ennui des heures vides, à appuyer sur la sonnette sans que personne ne vienne, l'atout, les râles et les cris des pensionnaires que la nuit effraie ? Combien de temps avant qu'il ne faille le nourrir lui aussi comme un animal en cage et qu'il se mette à crier la nuit comme les autres ? Il entendait chaque grain du sablier tomber dans un fracas assourdissant et dévaler la pente du monticule bientôt achevé. Il eut soudain conscience du gouffre qui s'ouvrait devant lui et rien ne lui vint sur la façon dont il pourrait le combler. Le contact de l'enceinte de béton le rassura. Il posa l'autre main sur la surface granuleuse. Il avait dû prendre un coup de soleil sur le crâne. Il sentait le col de sa chemise mouillé de sueur frotter sur sa nuque. Il s'appuya un peu plus sur la paroi et sentit que les choses se stabilisaient. Il respirait mieux. Voilà, il allait mieux. Il avait chaud, mais il allait mieux. L'alerte était passée. Jusqu'à quand ? Il n'eut pas besoin de laisser revenir à lui les pensées qu'il avait déjà formées. Elles imprégnaient sa conscience comme une odeur de tabac, un pull-over de laine. Il n'avait nul besoin de formuler la conclusion qu'il avait tirée d'une question ancienne. Comment éviter ça ? Il avait décidé que ce n'était pas au temps d'apporter la réponse. Le temps ne l'aiderait pas plus qu'il ne l'avait fait jusqu'à présent. Le temps n'aidait personne. Il lui avait pourtant fait confiance. Il avait attendu toute sa vie qu'advienne quelque chose, un hasard, une rencontre. Mais rien ne s'était produit. Le temps l'avait trahi. Il avait attendu, mais la vie avait continué de suivre une ligne droite et sans surprise. Il n'avait jamais eu à choisir entre deux chemins et s'était résigné à une existence assise et solitaire qui glissait maintenant vers son achèvement. C'était le prix à payer pour n'avoir pas voulu s'impliquer, pour être resté à l'écart.
Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The crowd.
cracked bills and washed out horns blew into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it. Not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad.
Alors, tout à l'heure, on parlait d'anthropomorphisme. Hein, on disait que l'intelligence concrète des animaux leur permettait de prendre la vie sans question existentielle. Là, c'est tout le contraire sur le guichetier. Là, il se questionne un peu sur le sens de sa vie.
Tout à fait. Sur le sens de sa vie à lui, oui. Et ça ne le rend, vous avez remarqué, ça ne le rend pas plus heureux pour autant.
Ah, hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et vous avez remarqué, alors que les animaux ont tous un nom, les êtres humains, eux, n'en ont pas. Les deux garçons sont appelés le brun et le blond, et le guichetier, le guichetier.
Ah oui. Eh bien, on découvre des choses en décortiquant ce petit bouquin.
Tout à fait. En seulement 240 pages, dis donc. C'est ça le propre d'une émission de radio.
Eh oui. Alors, avant de terminer l'émission, on a eu des extraits avec des animaux, d'autres avec des humains. Ils se côtoient tous dans le même zoo. Mais est-ce qu'il leur arrive de se rencontrer?
Ben, évidemment. Dans un zoo, c'est inévitable. Ne serait-ce que par exemple en vrai, les vétérinaires, les gardiens qui sont obligés de rentrer dans les cages, enfin dans les cages, ça, dans des espaces dédiés aux animaux.
Ah, ça change tout, ça doit leur faire sourire, hein, les gars.
Donc pour les nourrir ou les soigner. Oui,
ouais. Oui, mais s'il n'y avait pas que ce genre de rencontre, la trame serait peut-être un peu plus faible pour un roman, non?
Oui, c'est ce qu'on pourrait dire. Et donc là, je vais dévoiler un petit peu la trame du roman.
Hein, oui, ce qui ne se fait pas, mais bon, peut nous en dire un petit peu, histoire de nous mettre l'eau à la bouche.
Tout à fait, Dominique, c'est un art, hein, ça, de dévoiler un petit peu d'un roman sans
mais
en
pas
dire
trop.
Trop non plus. Mais pas trop. Alors donc, disons que certains animaux sont amenés, à certains moments du roman, à quitter leur cage. Alors forcément, ils peuvent se trouver nez à nez avec un humain. Et quand un être humain rencontre un animal, qu'est-ce qui se passe?
Oui, ça dépend de l'animal, j'imagine.
et de l'être humain.
Le taïpan du désert fouilla l'air de sa langue, renifla autour de lui et mit finalement le cap sur l'entrée du bâtiment de briques rouges. Il traversa l'allée de caoutchouc et adopta la reptation latérale des serpents sur le sable brûlant, qui réduit la surface en contact avec le sol et donne l'illusion d'une vis sans fin, comme les vieilles enseignes de barbier rouges et bleues. Le taïpan dépassa la pancarte « Administration » et suivit la bande de gazon qui longeait le bâtiment. Sa priorité, comme tout évadé, était de trouver un endroit où se mettre en sécurité. Après, il serait toujours temps de voir si un oisillon, un rat ou une souris ne traînaient pas dans le coin. Il pénétra dans le building et rampa sur le carrelage froid. Un couloir se présentait à sa gauche et un escalier en bois lui faisait face. Les serpents savent ramper, grimper et voler, et tous savent nager, même ceux qui vivent dans le désert, parce qu'une espèce apparue il y a 130 millions d'années a eu le temps d'apprendre qu'il peut y avoir de l'eau là où il n'y en avait jamais eu. Et inversement, ce n'était qu'une question de temps. Difficile de savoir ce qui poussa le taïpan à prendre l'escalier plutôt que le couloir. Peut-être que le carrelage trop frais du rez-de-chaussée et l'espoir d'un air plus chaud à l'étage, ou l'instinct qui pousse le prédateur à préférer une position dominante quand le lapin ou la marmotte choisissent le terrier. Il ne fallut pas 10 secondes au taïpan du désert pour effacer les 20 marches et contre-marches qui menaient à l'étage et se retrouver sur le palier. D'une porte entr'ouverte s'échappait un air tiède, imprégné d'une odeur de bois et de cire, qui poussèrent le serpent à glisser sa tête ovale et bleue dans l'entrebâillement et à pénétrer dans la pièce, qu'il découvrit de ses yeux ronds et noirs en glissant sur le parquet ciré. Installé dans son fauteuil club en peau de zèbre, le directeur, sous son casque à réduction de bruit active, s'émerveillait en boucle du sang-froid avec lequel il avait géré l'affaire du yak, tandis que l'appassionata de Beethoven, qu'il accompagnait d'une main agitée, se déversait dans ses oreilles. Le serpent ondula vers la bibliothèque où son instinct lui disait qu'il pourrait s'y dissimuler, car si le taïpan possède un venin 100 fois plus létal que celui du crotal, il n'en oublie pas moins d'être méfiant. Une rangée de gros livres posés verticalement à même le sol contre la première étagère semblait ménager un espace à l'arrière où il pourrait se réfugier. Il était sur le point de l'atteindre quand une série de vibrations brèves sur le plancher capta son attention. Il se redressa sur un tiers de sa longueur et fit pivoter sa tête d'acier en balayant l'air de sa langue. Les vibrations provenaient du mouvement répété d'un mammifère de grande taille. Le mammifère tapait du pied et les fossettes thermosensibles du serpent enregistrèrent une modification de son rayonnement infrarouge et une élévation d'un quart de degré de sa température. Le taïpan n'attaque qu'en de rares occasions, lorsqu'il a faim ou se sent menacé. Les accidents impliquant un taïpan et un humain sont exceptionnels, car les probabilités qu'ils se croisent au cœur de l'Australie désertique sont minces, et celles qu'un humain et un taïpan se rencontrent dans un bureau en centre-ville sont nulles. Mais comme toute chose demeure possible tant que l'inverse n'a pas été prouvé, lorsqu'il découvrit la présence du serpent sur le plancher, le directeur se leva d'un bond en hurlant et envoya cogner son fauteuil fétiche contre le bureau. Il commença alors à jeter dans la direction du taïpan un certain nombre d'objets à sa portée, et il n'est pas exagéré de dire que le serpent se sentit légitimement menacé par cette pluie de projectiles. Le casque audio atterrit sur le sol sans atteindre le reptile. Le directeur s'empara ensuite du scorpion rouge dans son bloc de résine qui trônait sur le bureau et l'objet laissa la marque d'un de ses coins sur une latte du parquet. La règle en métal rebondit contre la bibliothèque, la statuette de tennisman dorée sur son socle de marbre se brisa en deux au niveau des hanches du joueur. L'ordinateur portable survola le serpent tel une soucoupe volante et alla se cracher contre une plinthe. Le téléphone filaire s'embrouilla dans son propre fil et termina au pied du lanceur. Une série d'actions brouillonnes de la part du directeur qui sautait sur place tandis qu'il lançait ce qui lui tombait sous la main dans une chorégraphie décousue et grotesque. Pour finir, l'homme saisit la lampe des années 30 qu'il aimait tant. Une pièce lourde, avec sa coupole de verre gravée et son pied en laiton, contondante et coupante à la fois. Un projectile avec une surface d'impact importante. L'arme parfaite. Mais heureusement pour la lampe, et malheureusement pour le directeur, il n'eut pas le temps de la lancer. Au même instant et en ordre dispersé, une vingtaine de reptiles, naja, cobra, mocassin et boa, sortaient de leur terrarium et se répandaient mollement hors du bâtiment qui les abritait.
Even though I tried, even though I cried, even though I made mistakes, but they were for you. After all I've seen, you treat me badly. I can't wash away your sweetest taboo. And I finally found myself, and I'm tied to the wreckage of you. Terrified that I'm under your spell. Don't wanna lose, don't wanna lose. And I keep on loving you. Keep on loving you. I keep on loving you. Got all of me in misery, and I keep on loving you. I keep on loving you. But all of me has fallen.
Even though I tried, even though I cried, even though I broke myself, I broke me for you. And even all those times I let you cut away my wings, now I'm flying back to misunderstood. And I finally found myself, and I'm tied to the wreckage of you. Terrified that I'm under your spell. Don't wanna lose, don't wanna lose. And I keep on loving you. I keep on loving you. I keep on loving you. Got all of me in misery.
Les rencontres entre humains et animaux sont assez mouvementées.
C'est le moins qu'on puisse dire. Tu les as voulu, tu les as eus.
Voilà.
Des exemples.
Bien. Hervé, tu nous rappelles le titre du bouquin ?
Oui, Vie sauvage de Daniel Faure, publié aux éditions Inculte en 2024.
Pour ceux que ça intéresse, pour creuser un peu, les éditions Inculte en fait sont distribuées par Actes Sud. C'est pour ça qu'on peut trouver les deux noms.
Voilà. Bien, alors question habituelle, qu'est-ce que vous allez nous lire le mois prochain ?
Eh bien, comme d'habitude, on va répondre. On n'en sait rien.
Comme d'habitude. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci Hervé, merci Catherine pour cette lecture. Nous nous retrouverons donc le mois prochain. Hein, c'est ça.
Oui.
Eh bien, en attendant, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Studio Zef ou l'écouter tous les vendredis après-midi à 14h. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.